Parenthèse musicale au Collège Roca aujourd'hui. J'ai tendu mon micro lors d'un spectacle lyrique un peu particulier. Explication.
On va faire un spectacle aujourd'hui qui mélange du texte, du théâtre, avec de la musique. Et c'est de la musique lyrique, et de l'opéra, c'est-à-dire des moments chantés, accompagnés avec un piano et deux chanteuses. Et l'histoire qu'on vous raconte, elle se passe dans les années 2050. Où on a tellement l'habitude d'écouter de la musique avec nos écouteurs, on n'a plus jamais entendu de musique en direct. Et là, à cette époque-là, on a trois artistes qui se disent quand même, c'est difficile de plus jamais entendre de la musique en direct. Et là, ils redécouvrent le répertoire et ils nous les font entendre. Et comme on écoute de la musique et du théâtre, et ben on essaye d'être le plus silencieux possible. On fera un moment avec vous pour discuter et pour vous expliquer ou pour répondre à vos questions. D'accord ? Bon spectacle ?
Avec la fin du live, nos vies sont tombées dans un ennui abyssal.
Le théâtre ?
Podcasté.
La danse ?
En 3D.
La musique ?
Enregistrée.
Aujourd'hui, nous sommes trois. Trois pour dire stop.
Vous avez oublié les conventions du spectacle vivant, celles que vous maîtrisiez dans le monde d'avant, celles dont vous ont parlé vos parents?
Notre proposition, c'est de vous réapprendre à être spectateur.
Mais comme les théâtres sont fermés depuis longtemps, on va vous demander de nous suivre dans des lieux improbables et désaffectés. Quatre siècles de musique lyrique reconstituée au gré de nos découvertes et de celles que vous pourriez nous amener. Tout est clair?
Alors on y va.
T'as pas compris?
Comment ça, j'ai pas compris?
Faut que t'imagines qu'avant, ici, il y avait 500 personnes. 500 personnes devant toi. 500 âmes à convaincre, 500 cœurs à toucher, à faire vibrer. 500 personnes qui attendent qu'on les extrait de...
On va réessayer.
Ouais. Ouais.
Dans votre décor, vous avez mis des cartons. Pourquoi ?
Il y a une raison, on dit dramaturgique, c'est-à-dire pour raconter l'histoire, on s'est dit qu'effectivement, on allait dans des endroits improbables. Donc, il fallait qu'on signifie le décor simplement, et puis aussi avec du carton, parce qu'on se dit, bah, dans les années futures, on n'aura plus les moyens de construire des grands décors. Et puis après, il y a une raison pratique. Ce spectacle, il est fait pour aller sur des scènes de théâtre normales, entre guillemets, mais il est aussi fait pour être joué dans un vrai gymnase, comme on le dit à un moment dans le spectacle. Et donc, il faut qu'on puisse se transporter facilement. Donc nous, on a juste une voiture break, on est quatre, on plie tout ça, et on a un piano qui est numérique, donc on peut, qui n'est pas trop gros, et ce qui permet effectivement de déplacer simplement le spectacle. Donc tu vois, on a essayé d'associer les contraintes techniques, les contraintes pratiques, et puis l'histoire. Quand même, nous, on veut vous raconter une histoire, on ne veut pas vous ennuyer avec nos questions pratiques.
Qu'est-ce que c'est qu'être soprano ?
Alors, c'est dans les tessitures, dans les catégories de voix qui chantent quand on parle du chant lyrique, mais c'est pareil en fait pour les chanteuses pop. Les sopranos, ce sont les voix les plus aiguës, donc c'est la voix d'Elisabeth aujourd'hui. En dessous, on a les mezzo, qui sont le type de voix que moi j'ai. Encore en dessous, il y a les voix de contralto, qui sont chez les femmes, mais qui sont très graves. Et après, chez les hommes, on a les hautes contre ou les contre-ténors. Là, c'est à peu près la même tessiture que la voix d'alto, mais c'est bien évidemment pas la même couleur. En dessous, on a les ténors. C'est la voix d'Arthur que vous avez entendu dans le duo à la fin. C'est la voix la plus haute chez les hommes. Et en voix de poitrine, j'entends. Et en dessous, vous avez les barytons. Les barytons, c'est la catégorie de voix qu'on a le plus souvent chez les hommes. Et les basses, c'est ceux qui chantent très, très grave en bas. Végétalien, c'est un crash test pour la motivation.
T'as pas trouvé les infos dans tes boîtes de chocavoine granulée ?
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Hé, mais on est où là ?
Dans le lobby d'un hôtel désaffecté que j'ai trouvé en fouillant la mémoire numérique du répertoire d'Airbnb, un vieux réseau social libéral du temps où on pouvait encore se déplacer pour faire du tourisme.
Lobby inchauffable, irrénovable et naturellement jamais converti en logement social.
Mais idéal pour la voix chantée.
Moi, je dois expliquer. Bon, on dit, alors c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, mais on parle des études féministes. On parle du fait que du rapport entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on fait très attention à ce que les femmes aient les mêmes droits, le même pouvoir que les hommes. On essaye et lui, il dit, on lui dit, elles lui disent, salut beau gosse. Alors il comprend pas. On est en 2050. Depuis le temps, ça fait bien longtemps que les hommes et les femmes sont égaux. Et elle continue et elle lui dit, pour le taquiner et puis aussi parce que ça l'amuse, elle lui tape les fesses en disant, reste calme beau gosse, pour insister sur le fait que peut-être les rôles se sont un peu inversés ou qu'en tout cas les femmes maintenant, elles ont bien le droit de toucher les fesses des hommes autant que les hommes ont eu à un moment le droit de toucher.
L'idée, c'est plutôt qu'on ne touche pas les fesses de quelqu'un s'il n'est pas d'accord. L'idée, c'est pas on a le droit de toucher les fesses de tout le monde. Mais bon, c'est il n'est pas encore en 2050, Pierre-Alain.
Je suis l'arrière-garde.
Et y a-t-il une époque pour chaque costume ?
Exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on, du coup, tu vois, on a des bases de costumes assez simples. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va chercher un personnage ou une époque, on a juste un accessoire qui peut nous aider à imaginer quelle a été l'histoire de ce personnage ou en tout cas comment elle a été pensée. Voilà. Les costumes, ils n'ont pas été spécifiquement faits et fabriqués pour ce spectacle. C'est des costumes qu'on a été achetés, récupérés auprès de l'Opéra de Lyon, par exemple. Et on s'est dit, ah, ça, à quoi ça nous fait penser ? Et Carmen, on imagine souvent une femme assez imposante. Et donc, on a cette idée, effectivement, d'avoir un corset, d'avoir des grosses fleurs. Quand on parle de l'Espagne, on a des fleurs. Alors là, elles sont blanches, elles ne sont pas rouges. Mais ça nous semblait, effectivement, faire quelque chose aussi qui fait de l'effet. Tu vois, quand on apparaît, on a l'impression d'avoir quelque chose de très volumineux, de très imposant. Les histoires qu'on a racontées sont toutes vraies. C'est-à-dire que c'est tous des personnages, des vrais personnages d'opéra, et elles sont toutes mortes de la façon dont on a dit qu'elles étaient mortes. Par contre, dedans, c'est pas leur vraie robe qu'on est allé chercher parce que c'est des personnages imaginaires. Tu vois ? Mais par contre, effectivement, ça symbolise à chaque fois cette héroïne qui est morte d'une façon plus ou moins exagérée ou bizarre, quand même.
Oui. Quoi, une sorte de tuyau que vous avez, c'est votre ceinture ou...
Eh ben, c'est le même principe que ce que Caroline a sur la tête. C'est l'idée de faire des vêtements avec des matériaux de récupération. Là, j'arrive même pas à voir ce que c'est.
C'est du câble électrique
aussi. Ah, bah, c'est du câble électrique aussi. Ouais.
Une autre question ?
Pourquoi à un moment vous avez fait un cours d'histoire ?
Ben parce qu'en fait l'idée de ce spectacle, nous on a demandé à Pierre-Alain de décrire une histoire qui permette de chanter tous ces airs qui normalement sont dans des opéras différents. Donc un opéra, c'est un peu une pièce de théâtre mise en musique. On en reparlera quand on se reverra, mais en fait l'idée c'est que du coup, dans chaque opéra, il y a des personnages différents. Et là, nous, on a pris des airs qui sont extraits de plein d'opéras différents. Donc normalement, si on les enchaînait, ça ne voudrait rien dire du tout. Donc on a dit à Pierre-Alain, voilà, il faut réécrire une dramaturgie, il faut écrire un texte qui permette de faire un lien entre ces choses-là. Et puis on lui a aussi dit, voilà, nous, on voudrait aller voir des scolaires et on voudrait pouvoir leur apprendre des choses ou en tout cas pouvoir leur rappeler des notions qu'ils ont déjà entendues. Donc l'idée, c'est que tout le long du spectacle, si vous faites attention, il y a des éléments qui sont vrais. Tout ce qui est dit dans le spectacle, à part les histoires de junk food et tout ce qu'on a imaginé qu'on pourrait manger qui est affreux, tout ça, c'est faux. Mais sinon, le reste, c'est tout des vraies informations. Les dates que donne Aéron sont les vraies dates. Et les choses qu'on vous dit, donne, qui sont... Sauf quand ils se trompent. Et les éléments historiques qu'on vous donne, ce sont les vrais éléments historiques.
L'idée, c'était pas de faire une conférence, mais vraiment une histoire. Puis dedans, il y a plein d'informations. Il y en a peut-être beaucoup, il y en a peut-être qui sont très compliqués parfois, mais effectivement, c'est l'idée qu'on peut apprendre aussi des choses en écoutant un spectacle, parce que c'est aussi une façon de transmettre des informations, des connaissances.
Non mais sérieusement, tu le fais exprès? Ça fait des mois qu'on en parle. Les noces de Figaro.
Les noces de Figaro.
C'est le titre. Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, son compositeur et son
livre. Da Ponte, son librettiste.
Lorenzo da Ponte, 1749-1831.
Ok, j'y suis. Vous parlez du duo. Sous là, il y a extrait du grimoire moisi bleu.
À ce moment-là de l'action, la comtesse s'épanche auprès de Suzanne, sa camériste.
Les deux femmes imaginent un plan pour confondre le comte qui, infidèle, a des vues sur Suzanne. Elle lui donne un rendez-vous en lui écrivant une lettre. La comtesse et Suzanne ont tendu au comte.
Pauvre comte.
Oh non, mais c'est un blague.
Pourquoi vos costumes sont des vestes?
Parce qu'en fait, là, tu vois, on doit changer de personnage à chaque fois. T'as vu le temps qu'on a pour se changer? J'y disparais, puis je réapparais, je dois déjà être changée. Donc l'idée, c'était justement d'avoir quelque chose qui va avec tout. Et Elisabeth, elle se change sur scène.
Donc, en fait, il y a tout à l'opéra, c'est comme au cinéma, c'est comme au théâtre, selon l'histoire qu'on a envie de raconter, selon ce que le metteur en scène a envie de raconter ou la metteuse en scène, eh ben, on va avoir tout type de costume. Ça peut aller du maillot de bain au costume de soirée, à un truc qui n'a rien à voir, absurde. Il y a vraiment tout.
Si tu voyais en fait les costumes d'opéra derrière la scène, vous avez l'impression parfois que c'est des robes en entier ou que c'est hyper ficelé, etc. Et souvent, il y a des astuces. Quand on a des changements rapides, en fait, des fois, quand tu vas derrière et que tu regardes les habilleuses, c'est souvent des robes, mais faites en deux parties. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive derrière, bah, on déscratche l'arrière et on a une minute pour se changer. Donc, en fait, on dirait que c'est des robes et des gros manteaux, mais souvent, il y a des trucs et astuces pour que ce soit facile à enlever et à mettre.
Et pourquoi le monsieur au piano, il chantait des chansons qui n'avaient rien à voir avec le spectacle de l'opéra?
Tu veux dire, en fait, quand je chantais des chansons, pas les morceaux d'opéra, quoi?
C'est comme si, effectivement, c'est comme une ponctuation. C'est pareil, c'est pour que nous, aujourd'hui, ça, c'est des musiques que tout le monde on a souvent entendues à la radio, éventuellement, peut-être pas vous, parce que vous êtes encore très jeune. Au lieu de dire les choses en parlant, ben, on prend une petite phrase dans une chanson pop et il la chante. Pour montrer aussi que, finalement, la chanson, la musique, en général, ben, il y a beaucoup de genres. Mais beaucoup sont intéressants, beaucoup racontent des choses, permettent d'avoir des émotions, nous disent des choses. Et effectivement, la voix, par exemple, quand ils chantent Staying Alive, c'est une façon de découvrir ce que c'est que la voix de tête, la voix de contre-ténor, et en même temps, de dire quelque chose qui est raccord avec l'histoire. Voilà. Et puis, ça amuse. En général, là, encore une fois, vous avez souri.
Ça participe au côté très agaçant du personnage, je trouve. Parce qu'on est là, on est en train d'avoir une discussion, et puis lui, d'un coup, il ne peut pas s'empêcher de balancer la chanson qu'il connaît pour montrer qu'il connaît des trucs, pour attirer l'attention, pour... Il est agaçant.
Et puis, ça vous permet d'entendre la différence. En fait, le fait d'avoir un autre style de musique, ça vous permet aussi d'entendre la différence entre une voix travaillée d'une façon lyrique et ce style de musique. Parce que Arthur, quand il chante comme ça, il ne chante pas avec sa technique lyrique.
Et moi, j'avais une question par rapport à votre voix, à votre hygiène de vie.
Aucun défaut.
Non, c'est une très bonne question. Alors, je pense que là, on va pouvoir répondre tous les trois. Moi, j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit. Si je ne dors pas, ou si je ne me tais pas minimum 8 heures par nuit, je ne peux pas chanter, j'ai un instrument qui n'est pas en bon état le lendemain. Il faut qu'on fasse quand même attention à bouger tout le temps, parce que, enfin, avoir une hygiène et avoir une forme physique à peu près correcte, parce qu'en fait, notre corps, ce qui fait qu'on va nous entendre de loin, ce qui fait que la voix va sonner loin, c'est qu'en fait, c'est tout notre corps qui va vibrer. C'est un peu, vous voyez une caisse de résonance quand vous avez un violon ? En fait, si vous enlevez ce qu'il y a en dessous, la caisse, ça fait un son tout petit, tout moche. Si vous rajoutez la caisse de résonance, ça sonne loin. Bah, nous, c'est pareil, sauf que la caisse de résonance, c'est nous. Donc effectivement, on est obligé d'avoir un corps en bon état. On doit énormément, énormément boire.
De l'eau.
De l'eau. Et après, bah, tu veux dire, toi, pour toi ?
Bon, moi, j'ai besoin essentiellement d'être détendue. Après, il n'y a pas grand-chose qui est altérant pour moi, sauf quand je suis stressée, quoi.
Il y a aussi un peu parfois des idées. La voix, elle est rarement cassée. La voix elle-même, elle est rarement abîmée. Ce qui fait qu'on est aphone, souvent, c'est que le corps autour n'est plus capable de vibrer, ou que là, vous l'entendez peut-être plus sur ma voix parlée que sur ma voix chantée, mais moi, je suis bien, bien, bien malade en ce moment. Donc, j'ai le nez bouché, j'ai toute la sphère ORL qui est prise là-haut, mais ça s'entend peu sur la voix chantée, en fait. Donc, comme le corps fonctionne encore, ça sonne.
Après, il y a quand même des enjeux, et en tant qu'enseignant, sans doute qu'on peut être exposé à ça aussi, il y a quand même des enjeux des fois de fatigue vocale, de, ben, en fait, les cordes vocales, c'est des tissus mous qui se rencontrent, qui vibrent ensemble, et en fait, à force de l'utiliser, si on l'utilise mal, avec une mauvaise technique ou trop souvent, sans repos, ben, il y a des bleus, il y a des œdèmes qui se font sur les cordes vocales, et là, effectivement, il faut observer des phases de repos, il faut peut-être faire un peu d'orthophonie pour corriger le geste vocal. Et si on ne fait pas attention, moi ça m'est arrivé, j'ai chanté mal trop longtemps, des trucs trop durs pour moi, voilà, et ben on est obligé de se faire opérer des cordes vocales pour enlever une pathologie, enlever un truc. Donc il existe quand même après des pathologies si on malmène trop l'instrument vocal, si on ne fait pas attention.
En général, quand même, les chanteurs, ils fument pas, ils boivent pas, ils dorment bien, ils boivent beaucoup d'eau.
Voilà. Ouais, c'est un bon résumé.
C'est un bon résumé.
Et après, on a aussi une façon d'utiliser notre voix. On n'est pas des chanteurs pop, alors on n'a pas de micro, mais... On a une façon d'utiliser notre voix et de soutenir de façon physiologique en utilisant notre voix naturelle. C'est un peu comme les bébés que vous entendez pleurer toute la journée. Ils ne sont jamais fatigués, en fait. Non, mais c'est vrai. Ou vous entendez les enfants crier dans les petits, les maternelles crier dans les cours de récréation. C'est absolument hallucinant. Ils peuvent crier tous les jours et pendant des heures. Ils sont vraiment connectés à un geste qui est sain.
Et puis la voix est au départ juste une question d'énergie en fait.
Oui.
Être complètement plouf, bah ça sort pas quoi.
Oui.
Quelle formation avez-vous faite pour devenir des chanteurs lyriques ?
Ça c'est pareil, les parcours sont très divers. Alors moi j'ai commencé à chanter toute petite dans des chœurs d'enfants. Voilà, mais j'ai jamais imaginé que j'allais en faire mon métier. Jamais, jamais. J'adorais chanter, avec d'autres surtout. Et puis j'ai fait d'autres études, j'ai fait des études de gestion, de management et des études de lettres. Et puis, voilà, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, oh, quand même, j'aime vraiment faire ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, tu sais, peut-être que tu devrais essayer de chanter, puis tu pourrais peut-être en faire ton métier. Je me suis dit, bon, je prends une année sabbatique, je regarde en travaillant tous les jours ce que ça fait. Si je rentre dans une structure supérieure, je continue. Si ça ne marche pas, je retourne faire ce que je faisais, puisqu'en fait, j'avais cette chance-là. Elisabeth, tu veux...
Bien, moi, au départ, je suis flûtiste, donc pas du tout chanteuse. Et puis, après mon bac, je m'étais dit que je serais peut-être prof de musique au collège. Donc, j'ai passé une licence, j'ai fait des stages au collège. Et puis, j'ai dit, ben non, en fait, je ne vais pas être prof de musique au collège. Et c'est là que j'ai commencé à chanter. Donc, j'ai fait un conservatoire à Grenoble, puis un conservatoire supérieur à Lyon. Et voilà.
Et moi, j'ai fait le conservatoire en tant que pianiste à Toulon, à Grenoble, à Lyon. Et puis le chant, c'était à côté, c'était des cours particuliers. Et voilà, j'ai fait un peu de conservatoire à Lyon en chant, mais pas beaucoup. Et c'était surtout des cours particuliers, moi, pour le chant, à droite, à gauche.
D'où venez-vous ?
Moi, je viens de Toulon.
De Lyon, Croix-Rousse.
Moi, de Chamonix.
Vous êtes amis dans la vie ou pas du tout ?
On se déteste. Pierre-Alain, tu veux répondre à la question ?
Un peu, c'est vrai, on fait des métiers un peu compliqués parce que, tu vois, il faut qu'on ait beaucoup de complicité. Il faut qu'on soit effectivement dans de bonne humeur les uns vis-à-vis des autres, même si sur scène on joue une dispute. Et en même temps, on n'est pas forcément amis dans la vie. On change aussi beaucoup d'équipes. Donc on va travailler avec plein de gens et on va toujours essayer d'être plus ou moins de bonne humeur pour arriver à bien travailler. Et puis après, on peut être amis, oui, bien sûr, dans la vie. Mais pas forcément. On a plus une complicité pour le travail. Et c'est un travail qui demande de la complicité. Ce n'est pas forcément une amitié, c'est l'aspect professionnel de ce métier.
Ça peut être un peu comme une équipe de sport, où pour jouer ensemble, il va falloir trouver une super cohésion, une super entente, parler le même langage, trouver des choses communes pour être efficace. Et on peut tisser des liens, ça arrive, qu'on crée des immenses amitiés dans notre métier. Mais on peut aussi, ça peut aussi s'arrêter là et avoir une grande complicité au plateau, mais ça ne va pas être cette personne-là avec qui tu vas passer tes moments de vacances ou des choses comme ça.
Comment vous faisiez la musique ? Après chaque spectacle, il y avait une musique à la fin.
Comment ? Mais c'est, tu vois, c'est tout bête, c'est enregistré. Et puis moi, j'ai une petite touche et c'est diffusé par cette petite enceinte. Donc voilà, ça marche chaque fois que je ne me trompe pas, voilà. C'est-à-dire à peu près une fois sur deux.
Ça a été enregistré initialement par le premier pianiste avec lequel on a travaillé. Il a enregistré le jingle, en fait. Oui.
Avant de chanter pour entrer dans l'opéra, vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas réussi ?
Alors moi, je travaille aussi à côté. J'ai ce qui s'appelle un doctorat en sciences de gestion et en management. Et je m'intéresse à comment on peut développer des toutes petites structures du secteur culturel en France. Donc je travaille aussi dans ce domaine-là parce que ça m'intéresse. J'ai la chance de pouvoir faire les deux. Et donc si j'avais pas réussi et si ça n'avait pas fonctionné, je pense que j'aurais fait ça, j'aurais aussi enseigné, je sais pas. Mais j'aurais pas été désespérée parce qu'en fait, j'aurais quand même pu continuer à chanter de façon amateur. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que d'ailleurs, je vais m'arrêter un jour.
Moi, je sais pas, peut-être j'aurais fait du droit.
Moi, j'étais partie pour faire des études d'ingénieur à la base. J'ai fait une classe prépa et puis après, j'ai arrêté. Donc peut-être j'aurais fait ça, mais en même temps, ça me plaisait pas. Donc peut-être j'aurais fait autre chose, je sais pas. Mais comme malheureusement, on est obligé aujourd'hui de se poser un peu la question de qu'est-ce qu'on ferait si on devait faire un autre métier, parce que le spectacle vivant en France va pas très bien. Et du coup, c'est une question. Moi, maintenant, quand on fait des soirées avec des copains qui font du spectacle, on se la pose tous. Qu'est-ce qu'on va faire si on doit s'arrêter ? Et c'est une vraie question qui devient concrète. Donc je trouve ça intéressant qu'elle soit posée aujourd'hui.
Est-ce que vous avez déjà fait des grands spectacles devant beaucoup de personnes ?
Oui. Oui, oui. Tu vois, là, on a une petite... Enfin, cette compagnie, elle est à taille assez restreinte et on a pas mal de spectacles en effectif réduit parce que c'est la volonté de cette compagnie pour pouvoir aller sur le terrain et se déplacer facilement. Mais on est ce qui s'appelle intermittent du spectacle. Donc, on travaille tous à d'autres endroits. Et oui, on a tous les 3, 4. Pierre-Alain, il a fait déjà... Je sais plus combien tu as fait de spectacles.
Je sais pas, une trentaine, je pense.
Une trentaine. Et il en a écrit, mais... Et Arthur, Elisabeth et moi, on travaille aussi avec des compagnies beaucoup plus grosses et aussi dans des grandes maisons d'opéra.
Oui. Vous êtes connue à Lyon ?
Bon, ça commence. Alors, dans le milieu lyrique, aujourd'hui, oui, tu sais, quand tu dis « est-ce que vous êtes connue ? », c'est-à-dire que non, on ne nous arrête pas dans la rue quand on va prendre notre pain à la boulangerie. Mais toi aussi, bah, bien sûr. Mais par contre, dans ce milieu-là, oui, on commence tous à avoir une... Comme on n'a plus exactement 15 ans quand même, et que ça fait un moment qu'on chante, à force, c'est ce que disait Pierre-Alain, c'est un microcosme, si on a beaucoup d'équipes qui se retrouvent, oui, On a une notoriété au bout d'un moment, on a une réputation qui se crée. Et oui, je crois que pour l'instant, on n'a pas trop foiré notre réputation.
Dans tous les cas. N'importe quelle profession, en fait. Dans toutes les professions, au bout d'un moment, on connaît les gens qui exercent le même métier que nous, dans la même ville que nous. Et c'est un métier comme un autre, donc ouais, on se connaît les uns les autres maintenant.
En fait, peut-être pour répondre aussi à ta question, artistes, chanteurs, nous tous, on connaît quelques noms très célèbres de gens qui vont remplir des stades, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ce métier et qui ne sont pas connus du grand public, mais effectivement qui travaillent tous dans un milieu. Donc voilà, on sait qu'on peut faire des spectacles, on sait que, comme disait Caroline, ils ont appris avant et donc on va pouvoir s'appuyer sur eux, on va pouvoir compter sur eux, mais ils ne sont pas forcément une notoriété, ce n'est pas forcément des stars. Mais en fait, le métier d'artiste, la plupart des gens ne sont pas des stars. C'est très rare quelqu'un qui est très connu. C'est beaucoup plus souvent des gens qui savent, qui font bien leur métier, en qui on a confiance, qu'on embauche, mais qui ne sont pas forcément connus du grand public. On a plaisir à les entendre, justement, parce qu'ils chantent bien.
C'est la première fois que vous venez à Aubenas ?
Non, ce n'est pas la première fois qu'on vient à Aubenas. Alors pour moi, c'est au moins la quatrième ou cinquième fois. J'aime bien venir par là. On a travaillé avec d'autres... Il y a un autre collège à Aubenas.
Oui.
Voilà. Donc Oui, avec le collège de Jastre, tout à fait. Et on y retourne cette année.
Est-ce que vous allez revenir ?
Oui, on revient cette année à Jastre aussi. Et on revient ici pour faire des ateliers avec vous et pour continuer ce travail-là.
Pourquoi il n'était pas content de venir au Aubenas ?
Alors moi, à titre très personnel, je suis ravi d'être là. J'adore l'Ardèche. Il y a aucun... On est en Ardèche ? Oui, c'est bon. J'ai eu un doute d'un coup. Mais en fait, c'est très amusant d'être grincheux en personnage sur scène. Donc, moi, j'aime bien. Juste... C'est fun, c'est rigolo. Parce que dans la vraie vie, on essaie d'éviter d'être grincheux pour être agréable. Et du coup, sur scène, c'est agréable d'être grincheux.
On essaye d'éviter d'être grincheux.
Par qui sont rémunérés les chanteurs lyriques ?
Ah, grande question.
Ben, ça dépend, en fait. Là, ils sont rémunérés parce que le spectacle a été acheté. Et la plupart du temps, c'est de cette façon-là. C'est-à-dire, il y a soit un moment de production du spectacle. Donc là, ça fonctionne. Une compagnie fonctionne souvent, la plupart du temps, avec des subventions publiques, parfois un peu de mécénat, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent donner un peu d'argent. Et puis ensuite, une fois que le spectacle est fait, on cherche à le vendre. Et donc ça s'appelle un contrat de cession. Et dans ce cas, on va le vendre à un certain prix. Et ensuite, la compagnie, Brindevoie, donc, va faire des salaires pour un jour, deux jours, trois jours, le nombre de représentations. Et ça, après, les personnes qui sont payées de cette façon, les artistes qui sont payés de cette façon, ce sont ce qu'on appelle des intermittents du spectacle. Intermittents du spectacle, ça veut dire qu'on travaille de temps en temps en fonction de différentes dates avec beaucoup d'employeurs. Voilà, ce qui explique, en fait, cette particularité de ce métier où on peut être payé seulement une journée par un employeur, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et il vaut mieux en avoir plusieurs, d'ailleurs, parce que sinon, on n'arrive pas à gagner sa vie.
Il y a aussi une question, parce que je pense qu'il y avait ça en dessous. En France, il y a un statut assez extraordinaire qui existe, qui est le statut d'intermittent du spectacle. Tu en as parlé ? Oh, pardon. J'ai écouté, hein. Mais je n'ai pas entendu intermittent du spectacle. Tu as dit intermittent du spectacle ?
Qui bavarde au lieu d'écouter.
Quand le spectacle est acheté, il est acheté par les salles de spectacle ?
Alors, par des salles de spectacle. Ouais. Et ici, je crois, avec le pass culture, et qui permet en fait à des collèges, enfin des établissements, d'accueillir un spectacle professionnel de manière à ce que les artistes soient rémunérés correctement. Et en même temps, de proposer un spectacle qu'on espère de qualité, ou en tout cas fait par des professionnels. Et c'est ça la particularité. Et en ce moment, honnêtement, le système du pass culture, c'est quand même un dispositif qui est vraiment intéressant, je pense, pour, dans le cadre de l'enseignement, pour pouvoir faire découvrir, initier les enfants à du spectacle, parce qu'on ne va pas forcément avoir l'occasion d'aller dans une salle, etc. Et puis ça permet ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire un échange, et aussi de faire ce que va faire Caroline quand elle va revenir, animer des ateliers, faire chanter les enfants. Quand elle sera là, elle vous fera chanter, on pourra continuer à expliquer des choses. Moi, je ne sais pas du tout chanter, hein, et je ne fais pas de musique, mais par exemple, je peux animer un atelier d'écriture. Donc en fait, c'est aussi via le pass culture.
Ça fait combien de temps que vous faites des spectacles ?
20 ans ? 20 ans ?
Ouais. Bon, ben, merci beaucoup.
Merci, merci tout le monde.
Merci aux artistes de la compagnie Brin de Voix pour ces extraits sur InfoRC du spectacle Orphée 2050 qui avait pour but de faire tomber les clichés sur l'opéra.